Bonjour, je suis Dr. Claude Garceau et bienvenue à cette troisième petite mouture de nos balado-diffusions sur le sommeil. J'ai le plaisir d'avoir comme invité aujourd'hui Annick Vincent, qui est psychiatre et qui s'intéresse particulièrement au sommeil. Bonjour Annick, pouvez-vous me dire pourquoi vous vous intéressez au sommeil en tant que psychiatre?
En fait, je m'intéresse au sommeil en tant que psychiatre parce que je m'intéresse aussi à l'attention, à la régulation des émotions, à la santé globale de mes patients. Puis le sommeil, c'est la base, c'est l'essentiel. J'ai une spécialité en troubles du déficit de l'attention avec sans hyperactivité et c'est clair que dans un contexte comme ça, tous les gens qui ont une déprivation de sommeil ou un sommeil qui est insatisfaisant peuvent se ramasser avec des symptômes d'allure TDAH ou s'ils en ont un, l'empirer. Donc, c'est clair que pour moi, faire l'histoire du sommeil et aider les patients à favoriser leur sommeil, c'est une priorité.
Donc, le sommeil, on pense parfois que c'est un trouble, mais pas vraiment une maladie. Est-ce que c'est seulement des symptômes à gérer ou ça revient à vous demander quand est-ce qu'on devrait traiter l'insomnie?
Ben, en fait, on pourrait commencer par définir l'insomnie. L'insomnie, c'est quoi? C'est soit une difficulté à initier le sommeil, donc à s'endormir, ou encore une difficulté à maintenir notre sommeil, ou encore une sensation de sommeil qui est non récupérateur. Quand on se réveille, on a l'impression qu'on n'a pas récupéré assez de notre nuit de sommeil. Et ça, dans des conditions où est-ce qu'ils sont favorables pour notre sommeil. Donc, on est quand même dans une hygiène de vie et une hygiène du sommeil qui a de l'allure. Et malgré ça, on n'arrive pas à avoir un sommeil qui est satisfaisant.
Que nous disent les lignes directrices pour le traitement de l'insomnie?
Ben, en fait, il faut définir qu'on est dans une difficulté de sommeil ou on est dans un sommeil, dans un contexte de déprivation de sommeil volontaire. Par exemple, si quelqu'un prend sa soirée pour faire autre chose, puis s'amuser ou se rattraper ce qui n'est pas fait dans la journée, etc., ou encore elle ne se met pas en condition pour favoriser le sommeil. Donc, on peut avoir un sommeil qui est écourté, on pourrait avoir un sommeil donc qui est non satisfaisant ou non récupérateur à cause de ça. Donc, on ne peut pas parler d'insomnie dans un contexte comme ça. Comme psychiatre, j'ai déjà vu aussi des gens qui n'étaient pas satisfaits de leur journée puis qui trouvaient ça plat. Donc, il aurait aimé ça de dormir plus longtemps pour éviter d'avoir à passer à travers leur journée. Ça, c'est pas de l'insomnie non plus. Donc, de l'insomnie, c'est vraiment une difficulté à s'endormir, à rester endormi ou encore un sommeil qui est non récupérateur dans des conditions qui sont favorables pour le sommeil. Et ça, quand on fait l'évaluation, il faut se poser la question, est-ce qu'on est face à une insomnie tout court? Est-ce qu'on est face à une insomnie dans un contexte, par exemple, de stresseur? Est-ce qu'on est face à une insomnie dans un contexte problématique qui est associé, comme par exemple dans la dépression, ou est-ce qu'on a un sommeil qui, en général, est écourté en fin de nuit? Dans l'anxiété, on peut avoir un sommeil qui est écourté en début de nuit. On a des problématiques aussi qui peuvent faire que notre sommeil est fractionné. Si on pense, par exemple, à des déséquilibres hormonaux, comme dans la périménopause, la ménopause, le patient diabétique, par exemple, qui se lève la nuit très souvent parce qu'il a envie d'uriner. Donc, il y a toutes sortes de facteurs qui peuvent faire en sorte qu'on a une problématique de sommeil. Quand on parle du traitement, ben, le traitement va passer par faire notre histoire de sommeil comme il faut. Vérifier si on a des conditions pour favoriser le sommeil, avoir la discussion avec notre patient pour avoir une bonne hygiène de sommeil et aussi vérifier donc quels sont les facteurs qui peuvent contribuer à l'insomnie puis voir où est-ce qu'on a un pouvoir ou un levier par rapport à ça. Si on est face à une insomnie qu'on dit primaire, non associée à une autre problématique, on peut très bien aborder l'insomnie d'abord par une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène de sommeil. Travailler aussi sur, en psychothérapie, sur les éléments qui ont pu contribuer à chroniciser l'insomnie. L'anxiété, par exemple, je dormirai pas assez, j'arriverai pas à avoir une nuit de sommeil, donc l'anxiété va venir contribuer. Donc, il y a des thérapies spécifiques par rapport à l'insomnie qui peuvent être installées. Travailler aussi par rapport à quelle heure on se réveille le matin, est-ce qu'on fait ou pas des siestes, donc comment finalement favoriser notre sommeil et aider à avoir une meilleure régularité. On va travailler, entre autres, sur aussi l'exposition à la lumière. On sait que l'exposition à la lumière va garder notre sommeil en mode éveil. Et donc, on va, entre autres, parler de la gestion du temps d'écran, la gestion des écrans en général en soirée, comment on prépare notre cerveau vers un dodo récupérateur. Donc, on fait tout ça, quelle que soit la problématique d'insomnie. Après ça, on se pose la question, est-ce qu'on a besoin de traiter médicalement, pharmacologiquement, notre insomnie. Et là, on a plusieurs options. si on a une insomnie qui est associée à une autre problématique, comme la dépression ou l'anxiété, on va se poser la question, est-ce qu'on traite que l'anxiété ou la dépression, ou on propose aussi un traitement pour l'insomnie de façon spécifique, ce qu'on pourrait faire. Et dans le contexte des traitements pharmacologiques de l'insomnie, plus spécifique, là, au Canada, on a différentes molécules qui ont l'homologation de Santé Canada pour traiter l'insomnie. Quand on regarde au niveau des familles de ces médicaments-là, on a la famille des médicaments qui touchent sur le mécanisme de neurotransmission du GABA. Donc là-dedans, on a les benzodiazépines et ce qu'on appelle communément les drogues de la classe Z, parce que tous les noms de produits commencent par Z. Dans ces deux familles de produits-là, on induit plus de sédation. Donc, on aide le cerveau à s'endormir ou à rester endormi en l'écrasant davantage notre bouton sommeil. Tu peux avoir des problématiques au niveau, entre autres, si on a se levé la nuit, on a plus de risque de chute, par exemple, particulièrement chez les personnes âgées ou les personnes qui ont un problème d'équilibre. Mais on a aussi plus de sédation, on essaie du lendemain avec ces molécules-là. On a aussi plus de problématiques au niveau de la tolérance qui peut s'installer. On a au niveau de l'efficacité, là, une perte d'efficacité qui peut s'installer pour l'effet hypnotique de ces molécules-là. Et on peut avoir aussi une problématique de dépendance physique et non pas juste psychologique qui s'installe au traitement avec une difficulté à sevrer la molécule. Actuellement, la tendance est plutôt à, je dirais, faire une déprescription de ce type de médication-là. Et les indications officielles, c'est le traitement de l'insomnie sur une courte période. On parle de 7 à 14 jours. Donc, ça, c'est la famille des benzodiazépines et la famille des drogues, la famille des médicaments en Z. On a maintenant, depuis quelques années, accès à une autre famille de médicaments qui travaillent de façon différente. Donc, dans notre cerveau, on a un système qui s'appelle le système alorexine qui nous amène à être en mode éveil quand les orexines sont circulantes et efficaces sur les récepteurs. Et quand le système d'orexine baisse, là, à ce moment-là, notre cerveau passe en mode sommeil. Et depuis quelques années, donc, on a des médicaments qui s'en vont faire une inhibition sur les récepteurs alorexine, qui amène le cerveau à se mettre en mode sommeil plus facilement, sans avoir l'effet sédatif écrasant des autres molécules. Et bonne nouvelle, on n'a pas aussi de tolérance ou de dépendance qui s'installe. Donc, actuellement, au niveau des algorithmes, ce type de médicament-là devient en première intention pour quelqu'un qui présente de l'insomnie, qu'elle soit une insomnie qui est ponctuelle, temporaire ou une insomnie qui est plus au long cours. Il y a aussi d'autres molécules qui existent qui ont des propriétés sédatives qu'on utilise de temps en temps de par leurs effets secondaires sédatifs, mais qui n'ont pas d'indication et la place non plus pour le traitement d'insomnie, particulièrement le traitement d'insomnie sur une base chronique.
Donc, en fonction peut-être des comorbidités, qu'elles soient physiques ou psychiatriques ou psychologiques, est-ce que vous allez moduler le choix de traitement en fonction des autres conditions qui sont présentes?
Bien sûr, parce que si, par exemple, on pense à la dépression majeure, classiquement, elle est associée à une insomnie qu'on dit terminale, donc en fin de nuit. Donc, on va travailler à avoir un maintien du sommeil le plus possible et utiliser une molécule qui va aller chercher un maintien de sommeil. Et on va aussi chercher à traiter spécifiquement notre état dépressif avec une psychothérapie et ou une médication antidépressive, là, dépendamment de la problématique de la personne. Au niveau de l'anxiété, c'est la même chose. Donc, l'anxiété, on a aussi une atteinte au niveau du sommeil, mais plus au niveau initial. La personne a de la difficulté à s'endormir parce qu'envahie par les tracas, l'anticipation qu'elle se fait. Et dans un contexte comme ça, on va travailler avec des molécules qui peut nous aider à initier le sommeil, à régulariser le sommeil à ce niveau-là. Et on va aussi travailler en psychothérapie, à travailler à diminuer l'anxiété. Et parfois, on va aussi utiliser une molécule spécifique pour le traitement de l'anxiété.
Donc, le patient qui est anxieux, qui a des troubles de sommeil, ça va pas être traité probablement de la même façon que le patient qui a une dépression puis qui a des troubles de sommeil plutôt d'éveil le matin ou que le sommeil n'est pas assez long. Oui.
Oui, ce qui est intéressant, c'est que dans le choix de la molécule, si on parle par exemple des produits qui travaillent sur l'orexine, on a un effet au niveau de l'endormissement et on a aussi un effet au niveau du maintien de sommeil avec un retour vers une structure de sommeil plus proche de la normale. Donc, ça va être la même molécule qu'on va utiliser, mais pas pour les mêmes raisons. On a aussi des gens, par exemple, qui peuvent avoir des difficultés à dormir pour d'autres raisons. Si je pense, par exemple, quelqu'un qui a des inconforts physiques associés à de la douleur, par exemple, à ce moment-là, on va prioriser de traiter qu'est-ce qui cause cette douleur-là, mais on pourrait aussi proposer un traitement de l'insomnie à notre patient qui est accommodé par la douleur pour l'aider à favoriser le sommeil. Et ce qu'on va voir dans un contexte comme ça, c'est que si le sommeil est meilleur, on voit aussi une meilleure tolérance à la douleur. La douleur elle-même ne s'atténue pas, mais c'est comme si le patient arrive à mieux, entre guillemets, vivre avec les symptômes douloureux qu'il a.
Ben, je trouve ça vraiment intéressant. Pour moi qui est non-psychiatre, puis qui n'a pas beaucoup d'appui de psychologue ou de médecin de famille, de m'intéresser d'abord à savoir si le patient a un état dépressif. Je pense que c'est important de regarder si le patient est anxieux pour ne pas se faire un sevrage des médicaments qui sont efficaces peut-être pour l'anxiété, mais peut-être moins indiqués pour le sommeil. Comme interniste, bien évidemment, je vais regarder l'aspect cardio-métabolique. Ça, c'est pour les bienfaits autres que sur le sommeil. Mais on a quand même des évidences maintenant d'amélioration de la pression artérielle, des glycémies, de la variabilité glycémique. Et donc, des facteurs qui sont des choses qui sont quand même importantes pour une population cardio-métabolique qui ont une atteinte pulmonaire. Alors, docteur Vincent, je vous remercie beaucoup de votre participation à ce très bref entrevue sur le sommeil. J'invite mes auditeurs à écouter les deux autres balados qui ont déjà été publiés sur le sujet avec d'autres invités de marque. Alors, je vous remercie beaucoup de votre écoute attentive et merci beaucoup à Nick Vincent, psychiatre.
Merci.